Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste spécialiste des questions internationales Christine Ockrent, l'essayiste Philippe Manière, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pech. Au sommaire de ce dimanche 16 septembre, Viktor Orban sanctionné, l'Europe agit-elle à contre-temps ou à point nommé pour défendre ses valeurs? Et puis en France, après l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée très proche de l'Élysée, quel parlement face à l'hyper-président ou pourquoi tous nos chefs d'État finissent toujours par se sentir tellement à l'aise dans les habits du général de Gaulle, jouissant à plein du centralisme de la Ve République? Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, avait écrit un jour Albert Camus. Or, cette semaine précisément, l'Europe avait décidé de nommer, d'appeler un chat, en brandissant l'article 7, procédure permettant à Bruxelles de sanctionner un pays qui ne respecterait pas les valeurs de l'Union. Oser nommer, oser dire que Viktor Orban n'était pas un dirigeant de droite parmi d'autres au sein du PPE. Oser dire que les dirigeants hongrois se situaient bien à l'extrême droite de l'échiquier politique européen. Nommer. Affirmer clairement que la Hongrie n'était plus un état de droit, parce que la justice n'y était plus indépendante, parce que les journalistes ne pouvaient plus y critiquer le pouvoir, parce que les ONG étaient harcelées fiscalement, parce que les marchés publics étaient attribués aux proches d'Orban, parce que les migrants et les sans-abri pouvaient être tabassés et incarcérés sans raison par les forces de l'ordre. À 9 mois des élections européennes, la question était maintenant de savoir si l'Europe ne se lançait pas un peu trop tard dans cette arène où campait déjà solidement le couple Orban-Salvini. S'il était encore temps de se souvenir que l'Europe avait des valeurs fondamentales à défendre. Ce combat pour des valeurs dont s'emparait lui aussi Viktor Orban, assumant parfaitement de défendre lui un tout autre modèle.
Monsieur le vice-président, soyons directs l'un envers l'autre. La Hongrie va être condamnée parce que les Hongrois ont décidé que ce pays ne serait pas un pays de migrants. Avec tout le respect que je vous dois, je dois refuser très fermement les menaces, le chantage, la diffamation des forces soutenant les immigrés et les migrants contre la Hongrie et le peuple hongrois. Je dois dire que, quelle que soit votre décision, la Hongrie n'acceptera pas ce chantage. La Hongrie protégera ses frontières, arrêtera l'émigration illégale et défendra ses droits.
Hubert Védrine, si vous étiez eurodéputé, vous auriez voté pour l'article 7 ?
Sans doute, mais disons sans être tout à fait heureux de ce processus.
Mais vous l'auriez fait ?
Sans doute. Sans doute. Mais vous parlez d'Europe, c'est pas l'Europe, c'est le Parlement européen. Le mot Europe, c'est un mot valise, hein. Il faut toujours le rappeler, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Le Parlement européen peut déclencher cette procédure, il faut savoir pourquoi à l'intérieur du PPE, donc le grand parti de la droite européenne, pourquoi finalement même les Allemands, les Autrichiens, etc. ont déclenché l'article 7. Et donc ça, c'est très important pour la suite. Et il y a peu de chances que ce processus aille à son terme, il y a un processus comme ça déjà contre la Pologne, qui le rejette, bon... Et moi, je pense qu'il faut distinguer dans le basculement au sein de la droite européenne classique contre Orban, les questions qui relèvent l'état de droit. Vous avez énuméré toutes les atteintes à l'état de droit qui sont très précises.
Qui ont été recensées par un rapport parlementaire.
Et d'autre part, la question migratoire. Sur la question migratoire, Orban n'est pas minoritaire, en fait. Et au sein du PPE, et même au-delà du PPE maintenant, compte tenu de l'évolution des opinions, il y a beaucoup de forces politiques qui vont de plus en plus sur une ligne sur laquelle il faut contrôler de façon drastique et rigoureuse les mouvements de population économique. Après, il y a un débat sur l'asile, sur lequel il faut être tout à fait inflexible pour le préserver, pour le sauver. Donc, moi, je pense que les provocations d'Orban sur l'état de droit, mais pas sur la question des migrations, ont tellement gêné au sein de la droite classique qu'ils se sont dit, on va laisser le processus démarrer au Parlement, c'est une façon de faire pression sur Orban, on va lui dire tu commences à nous gêner pour de vrai, mais je ne pense pas du tout qu'il veuille l'exclure, parce que sinon la droite classique n'est plus majoritaire dans le système européen.
Même si le 19 septembre prochain, il y a ce sommet du PPE à Salzbourg qui pourrait décider de suspendre Orban.
Ça m'étonnerait, Ça m'étonnerait parce que le risque à ce moment-là, c'est qu'il y ait quand même un gros paquet qui sorte, qu'Orban reconstitue une droite radicale, encore pas exactement l'extrême droite, mais enfin c'est une variante, et que surtout en termes politiques au sein du système européen, le PPE soit très affaibli.
Ouais.
Et beaucoup de ceux qui ont, au dernier moment, la veille, ont dit qu'il faut quand même voter l'article 7 parce que ça nous donne un instrument sur Orban qui finit, je répète, par nous gêner en allant trop loin. Il semble pas qu'il veuille l'exclure, en fait.
Mais au fond, voilà, donc c'est bien pour l'avenir de l'Union européenne ce qui s'est passé cette semaine.
Non, ce qui serait bien pour l'avenir de l'Union européenne, c'est qu'il y ait un accord général sur la maîtrise des flux migratoires. Et c'est ça qui est fondamental.
Donc pour vous, c'est symbolique, c'est cosmétique,
non, c'est pas que symbolique, parce que le mouvement dont j'ai parlé au sein de la droite est important. La question des valeurs autour de l'État de droit est très importante. Mais je pense pas que l'avenir se joue là-dessus. Il se joue sur la distinction entre le droit d'asile qu'il faut sauvegarder à tout prix, et donc ne pas l'invoquer à tout propos, et la co-gestion des flux migratoires. Et là-dessus, il n'y a pas de contradiction absolument, en dépit du jeu de rôle et en dépit des oppositions et de la mise en scène des oppositions dans la période d'avant les élections européennes. Je pense que tout ça se terminera par un compromis sur ce point.
C'est
mais
un
pas
jeu...
sur les attaques à l'état de droit.
Je rebondis sur votre expression. C'est un jeu de rôle, ce qui s'est passé cette semaine, Thierry Pêche, avec le déclenchement de cet article 7.
Non, je pense que les membres du PPE en particulier sont arrivés à un point où leur famille est devenue tellement hétérogène, accueillant en son sein des gens comme Orban et des gens comme Merkel, que le vaisseau craque. Et d'une certaine façon, cette fissure, ce craquement, y participe de la recomposition du paysage politique européen, comme on l'a vu à l'intérieur de plusieurs États membres, que ce soit l'Italie, la France, naturellement. Et d'ailleurs, le fait que Macron embraye complètement sur la proposition de duel quasiment que lui fait Orban est bien le signe d'une volonté de faire éclater ces vieux ensembles pour recomposer le paysage. Donc le PPE est d'une certaine manière à l'agonie. Il est obligé de se positionner. Il est obligé de dire avec ou sans Orban. Voilà, c'est ça la question qui est posée. Au Parlement, une forte pression s'est exercée sur lui pour qu'il vote l'article 7. Au Congrès de Salzbourg, une nouvelle pression s'exercera sur lui à l'ombre d'une relation entre l'Allemagne et la Hongrie qui s'est beaucoup dégradée. Il faut savoir que si Orban est dans le PPE, c'est parce que l'Allemagne l'a voulu. Parce que Helmut Kohl l'a voulu.
Il lui a proposé,
et parce que tous ceux qui ont succédé à Helmut Kohl ont consolidé cette alliance avec la Mitteleuropa, avec cette espèce d'arrière-pays d'Interland de l'Allemagne, qui depuis 89 devait être son domaine d'une certaine façon. Et évidemment, l'Allemagne aujourd'hui voit bien que sur des questions aussi fondamentales, Hubert Védrine l'a dit, et la raison que les migrations, il n'y a plus de point commun entre la Hongrie et l'Allemagne. Mais il le voit aussi sur le capitalisme. Le choix de capitalisme qui est fait, de capitalisme hongrois comme il dit, qui est fait par Orban, est très hostile à la concurrence, au marché, c'est un capitalisme, un vieux capitalisme de monopole et d'oligopole à l'ancienne. Donc voilà, il est devenu insupportable, Orban. Un point tout de même sur les migrations. La Hongrie n'a pas vu un migrant depuis 2 ans. La Hongrie est un pays qui a été traversé par la migration, personne ne s'y est arrêté, et je vous assure que parmi les migrants, très peu ont envie d'aller s'y installer. Mais il a fait commerce de cette question continuellement auprès de son opinion publique. D'ailleurs, dans son discours que vous nous faisiez écouter au Parlement, on l'interroge sur l'état de droit, il répond sur la migration, parce qu'évidemment, il est en campagne. Et ce qui est sous-jacent et inquiétant à mes yeux, c'est que on voit bien que toutes les forces populistes européennes veulent faire durer ce sujet au moins jusqu'aux élections. Et on voit bien que tous les autres ont intérêt à trouver des solutions avant les élections. Et le fait qu'Orban ait choisi de faire ce type de réponse au Parlement installe la couleur, la teneur et l'intensité qui pourront être celles de la campagne. Et ça pose une grave question quand même. Parce que je ne suis pas sûr que les Européens, les autres, aient le commencement d'une idée de réponse à cette question pour donner aux opinions le sentiment que le sujet est sous contrôle. Donc on va au devant d'une élection qui risque d'être cuisante parce que le sujet migratoire risque d'être au cœur des préoccupations. Et on pourrait avoir demain, pour la première fois, un Parlement européen, sinon dominé par les forces d'extrême droite, du moins très largement occupé par elles. Ce qui veut dire que, et j'en termine sur ce point, Orban a compris, mais tous les autres populistes ont compris aussi, y compris Marine Le Pen, y compris Salvini, etc., que l'Europe n'était plus fondamentalement un ennemi, un adversaire, que c'était une terre de conquête. Et qu'on pouvait essayer de la dominer plutôt que de l'éliminer ou de l'écarter.
Néanmoins, est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine? Est-ce que certaines des alliances d'hier ont explosé? Par exemple, Wittmanier, pourquoi est-ce que même Sébastien Kurz, le chancelier autrichien qui s'est fait élire lui aussi sur un rejet sans concession de l'immigration, a voté pour sanctionner Orban?
Je pense que le prix politique et médiatique d'un soutien à Orban est devenu très élevé pour tout le monde. Alors évidemment, il y a en plus l'histoire, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne ont un rapport particulier. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile de dire, quand on vous pose la question, faut-il garder Orban ? Oui, il faut le garder. C'est devenu très difficile. Et là, je me rallie à ce que disait Hubert Védrine un peu plus tôt. C'est-à-dire que ça ne mange pas de pain, j'allais dire, de déclencher ces débuts de procédure, tout en sachant que la probabilité qu'elle prospère est assez faible.
Après, on sait quand même qui a voté quoi.
Oui,
on parlera tout à l'heure des élus qui viennent du Parti des Républicains en France, dont on connaît les votes, qui méritent peut-être d'être analysés.
Après, il y a la partie arithmétique, mécanique, politique, au sens le plus, contingent du terme. C'est que, là encore, Hubert l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a une question de poids du PPE. Si vous vous séparez d'un trop grand nombre de gens, vous n'êtes plus majoritaire et même vous nourrissez un serpent dans votre sein, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous tendez la perche à un groupe qui va vous faire concurrence. C'est l'éternel problème. Voyez, une différence fondamentale de la politique américaine, de la politique française au fil des dernières 10 ans, mais des derniers 10 ans, mettons, c'est que en France, il y a un parti d'extrême droite. Aux États-Unis, l'extrême droite, pour le meilleur et pour le pire, mais l'extrême droite est en quelque sorte gardée au sein de la droite. C'est le Tea Party. Enfin, je suis très expéditif en parlant d'extrême droite, mais la partie la plus à droite de la droite est dans le parti. Alors ça peut donner des résultats qui nous paraissent modérément désirables, comme par exemple l'élection de Trump, qui était assez fortement soutenue par l'aile droite du Parti Républicain. Mais enfin, ça n'ouvre pas un champ à un parti concurrent qui serait plus à droite. Et dans le fond, faire cohabiter des gens au sein d'un parti, c'est quand même quelque chose qu'on a vu beaucoup en Europe et en France. Enfin, pas seulement à droite. Enfin, le PS a quand même eu à un moment un spectre qu'elle est de Jacques Delors à Jean-Pierre Chevènement, qui pensait vraiment assez peu de choses en commun. Donc l'intérêt du PPE est peut-être quand même de garder ce poids tant que c'est possible, parce que sinon on perd la majorité, tout simplement.
Alors si justement ce vote autour de l'article 7 visait à clarifier la situation des droites au sein du PPE, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi sur 16 eurodéputés français membres des Républicains, 5 ont voté pour l'article 7, 3 ont voté contre, dont Nadine Morano, et 6 se sont abstenus, comme par exemple Brice Hortefeux, Michel Alliot-Marie, Geoffroy Didier ou d'autres?
Moi, je dirais d'abord qu'il y a un problème de discipline de groupe, c'est-à-dire que ça envoie le seul fait que vous puissiez poser cette question montre qu'ils auraient dû se coordonner de telle manière qu'on puisse pas leur faire grief de pas avoir pris un parti commun. Alors évidemment, la liberté de vote sur un sujet de ce type est compréhensible, enfin c'est quand même assez singulier. Qu'est-ce que vous voulez raconter ensuite aux enfants si la moitié des gens vont d'un côté et la moitié de l'autre, aux enfants et même aux autres? Si vous voulez, derrière tout
mais
ça, il y a quand même un problème.
Mais au-delà de la discipline de groupe sur la
mais pourquoi? Parce que dans le problème est insoluble, c'est-à-dire qu'on est dans un moment de l'Europe qui en quelque sorte cristallise ce discours qu'on a tous eu depuis longtemps sur le fameux déficit démocratique de l'Europe. Bon, mais le problème, c'est que à partir du moment où on commence à donner la parole aux gens, vous allez rire, ils disent des choses qui nous déplaisent, qui déplaisent aux élites et qui déplaisent à la plupart des observateurs. Donc on a une vague d'opinion très puissante qui est identitaire, anti-européenne au sens où elle est identitaire, pas tellement au-delà,
enfin, là,
mais au sens où elle est identitaire.
Mais
j'y viens, au point que cette question-là, et c'est très frappant en Hongrie, cette question-là leur paraît tellement importante que la question des libertés publiques passe au second rang. Dans le fond, et c'est ce qu'on voit dans d'autres pays, qu'on voit en Turquie, qu'on voit en Russie, à certains égards, encore une fois, mutatis mutandis, mais c'est pas que les gens n'apprécient pas les libertés, c'est qu'ils pensent que ce qui se joue est tellement important du point de vue de l'identité du pays qu'on peut admettre complètement que le sujet des libertés publiques, qui traditionnellement est quand même assez haut dans l'ordre des priorités, descende dans l'ordre des priorités. Et donc vous avez en Hongrie, vous voyez se développer un pouvoir, alors sur le plan économique, Thierry faisait allusion tout à l'heure, qui est devenu plutocratique et pas loin d'être kleptocrate, en quelque sorte. Je ne pense pas que les Hongrois soient favorables en soi à ce phénomène, mais il leur semble que c'est du second ordre par rapport à la question de l'identité. Et donc, quand vous vous retrouvez à Bruxelles, entre gens bien élevés, pour trancher cette question, vous êtes déchiré, parce que l'Europe est fatalement déchirée quand on lui demande d'être plus démocratique et qu'en même temps, si on écoute le peuple, il prend des postures qui paraissent modérément démocratiques au sens des libertés publiques.
Avant de vous donner la parole, Christine Ockrent, un mot de commentaire peut-être Thierry Pêche sur ce qui s'est passé chez les Républicains, peut-être ces atermoiements autour de valeurs fondamentales sur des petits sujets comme ceux de l'état de droit
Moi,
et de la démocratie.
Moi, je suis pas choqué que les gens votent non pas en vertu de je ne sais quelle discipline, mais en conscience. Très bien. Mais d'une certaine manière, le jugement est encore plus sévère si on considère qu'ils ont voté en conscience. Et moi, j'aimerais bien qu'ils répondent en conscience. J'avais pas fait attention, en fait. Je trouve cette liste très intéressante. J'aimerais que vous la poursuiviez, si vous avez d'autres noms, qu'on fasse connaître les attitudes des uns et des autres. Ça fait partie de la transparence démocratique. J'aimerais savoir pourquoi M. Hortefeux considère qu'il faut pas voter. Mais c'est bien, on est là aussi pour dire des choses qui ne sont pas que des secrets, pour faire connaître des faits. J'aimerais bien savoir pourquoi M. Hortefeux considère qu'il faut garder Orban dans le PPE.
On lui posera la question, peut-être, s'il vous entend. Le grand discours étant, Christine Ockrent, qu'il ne faut pas ostraciser Viktor Orban, qu'en déclenchant ce genre de vote, on se coupe aussi d'une partie de l'Europe dont on a besoin pour continuer de faire puissance face aux autres puissances du nouveau jeu géopolitique.
Mais pardonnez-moi, je crois qu'on mélange les torchons et les serviettes. Commençons par les serviettes. Les serviettes, c'est véritablement la défense des valeurs. On peut trouver que ce mot est un peu vieux jeu, mais il reste fondamental, me semble-t-il, aussi bien dans le vocabulaire politique des démocraties nationales que dans le vocabulaire européen. Donc ce qui s'est passé à Strasbourg, et tant mieux, ça a été la défense des valeurs. Et je crois que commencer à dire que ce vote portait aussi sur la question migratoire, c'est déjà faire le jeu de Viktor Orban, parce que ce n'était pas le cas. Le rapport établi par cette députée verte néerlandaise, je crois, portait sur les infractions du système Orban portées aux valeurs, comme vous l'avez rappelé, Émilie, dans votre introduction. Donc c'est tout à fait faire le jeu de Viktor Orban que de dire que le vrai drame, et c'est exact, le vrai drame de l'Europe, c'est cette pulsion identitaire alimentée par cette frayeur des immigrations. Et Thierry avait raison de rappeler qu'aucun immigré n'a voulu s'arrêter en Hongrie. Je veux dire, les gens ne sont pas fous, ils sont informés, ils ont traversé la Hongrie. La Hongrie a mis des barbelés très tôt, etc. Donc, il me semble que, s'agissant de ce qui s'est passé à Strasbourg, certes, c'est le début d'une procédure, après c'est le Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement qui vont décider, comme ils l'ont fait pour la Pologne, jusqu'où vont-ils véritablement aller, mais c'est un signal symbolique intéressant. La vraie victime de ce qui s'est passé à Strasbourg, certes, Orban, mais cela fait aussi le jeu d'Orban. Parce que la grande habileté d'Orban, c'est de dire « c'est moi la vraie Europe, c'est moi la vraie droite chrétienne, européenne, anti-islamique » et il est en train de réinventer l'Europe de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il entraîne avec lui une bonne partie, non seulement des pays dits de Visegrad, donc tous les pays qui sont entrés dans l'Union européenne après avoir subi le communisme au moment où il faut bien dire qu'on les avait complètement laissés tomber. Et donc, ça c'est un phénomène capital. Mais si l'on revient au vote de Strasbourg, la vraie victime c'est Laurent Wauquiez. Pourquoi ? Parce qu'il a fait éclater le drame de la droite française depuis toujours, c'est qu'il n'y a aucune unité idéologique ou même politique de la droite française sur l'Europe. C'est pas nouveau. Et la liste que vous avez donnée est tout à fait édifiante. 6 abstentions, 3 contre, 5 pour. Et ce n'est pas sur la question migratoire, ce n'est pas sur la question identitaire, c'est que représente aujourd'hui le PPE ? Tout à coup, on découvre cet acronyme. Il faut dire que la géographie politique du Parlement de Strasbourg est obscure pour tout le monde. Donc, le PPE, c'est véritablement pour Emmanuel Macron, qui a entrepris depuis le début de son mandat cette espèce de plaidoyer pour essayer de réinsuffler à l'Europe une vigueur et un esprit qui lui ont manqué pendant si longtemps, c'est une victoire pour Macron ce qui s'est passé. Parce que cela veut dire qu'il peut y avoir, y compris au sein de la droite française, des gens qui estiment qu'il est quand même plus important de défendre des valeurs plutôt que de se laisser embarquer dans un scénario qui ne repose que sur la question migratoire et identitaire, même si elle est fondamentale. Donc il me semble qu'il y a à la fois l'aspect symbolique et l'aspect politique. Et l'aspect politique, paradoxalement, il concerne davantage la France que d'autres pays. Et puis dernier point, si vous le permettez, il ne faut pas oublier qu'un homme s'est déclaré candidat à la succession de Jean-Claude Juncker, qui est un Allemand, qui dirige le groupe PPE au Parlement européen, M. Manfred Weber. M. Weber, où était-il au moment où Viktor Orban faisait campagne pour se faire réélire pour la troisième fois? Il était à Budapest, comme d'ailleurs le chancelier autrichien. Mais M. Weber, qui maintenant veut devenir président de la Commission, a voté contre Viktor Orban. Donc on voit bien que les jeux politiques sont confus, mais néanmoins éclairent, me semble-t-il, cette différence qu'il faut entretenir entre les valeurs d'un côté, les problèmes d'immigration de l'autre.
Avant de revenir au combat pour les valeurs, là encore peut-être un mot de réaction, Philippe Manière, à ce que disait à l'instant Christine Ockrent sur l'échec ou non de Laurent Wauquiez dans ce qui s'est passé à Strasbourg cette semaine.
Non, c'est une lecture que j'entends et qui me paraît raisonnable. Je ne crois pas que ce soit l'essentiel de ce vote, parce que la France n'est pas l'essentiel du problème. Mais enfin, c'est vrai que la droite, et Christine a raison de rappeler, a toujours été divisée sur la question européenne. Donc, précisément
là,
à ce titre,
là, il
Christine...
de se prononcer sur la question européenne ou encore une fois sur des valeurs
oui,
fondamentales
mais
et sur l'état de droit.
Oui, j'entends ce que dit Christine, c'est que nominalement, au pied de la lettre, on ne devait parler que de la question du respect de l'état de droit et des libertés publiques. Et donc, si on prend la question au pied de la lettre, évidemment, tout le monde aurait dû voter de la même manière, c'est-à-dire en condamnant la Hongrie, parce que les violations sont incontestables et significatives. Mais enfin, on sait bien que quand on fait un vote de ce type, c'est comme un référendum. On répond à la question, mais on sait bien la question qui est derrière.
Bah non, c'est un vote parlementaire. Ça n'a rien à voir avec un référendum.
Je suis d'accord avec vous, Christine. Et j'aurais probablement personnellement voté de cette manière-là. Pour cette raison,
en fait,
c'est qu'on pose une question sur l'état de droit. Évidemment, on condamne une atteinte à l'état de droit.
Vous êtes en train d'essayer, par exemple, de vous mettre dans la tête de Brice Hortefeux.
Voilà, je
me
mets dans la tête, pas seulement de Brice Hortefeux. Bon, Brice Hortefeux, on vous pose cette question. Tout le monde, enfin, je veux dire, vous le disiez vous-même, tout ça est un peu quand même du chinois pour l'opinion. Donc, personne ne va retenir la raison pour laquelle vous avez voté pour ou contre Orban dans l'opinion. Et tout le monde pense d'abord au jeu politique national, parce qu'il n'y a pas d'opinion européenne. Et donc, vous vous posez forcément la question de la lecture que les gens feront de votre vote. Et vous vous êtes absolument certain, quand vous êtes dans la situation de devoir répondre à la question qui a été posée, que les gens mélangeront les questions d'immigration et les questions d'état de droit, que c'est vraiment une toute petite partie de l'opinion qui va penser que vous avez voté contre Orban au titre des libertés publiques et de l'état de droit, sans tenir compte de la question de l'immigration. Donc je comprends qu'un certain nombre de gens se disent, pour des raisons politiques, internes, et quelle que soit la question, je ne veux pas apparaître comme étant contre quelqu'un qui est contre l'immigration. Et symétriquement, je veux apparaître comme étant contre quelqu'un qui est contre l'immigration. C'est inévitable. Je ne dis pas que c'est formidablement louable. Je dis que c'est inévitable et compréhensible.
Hubert Védrine, qui nous écoute dans son coin, est-ce que vous êtes d'accord avec Christine Ockrent lorsqu'elle disait que finalement ce qui s'est joué cette semaine était une bonne chose pour Emmanuel Macron, qui attendait d'une certaine manière ce moment de clarification et donc aussi le début d'une opposition entre deux systèmes de valeurs?
J'en sais rien, c'est trop tôt pour dire ça. C'est une hypothèse possible, mais ça dépend aussi de ce que disait Philippe sur le... Est-ce que c'est interprété comme étant une sanction, enfin un début de sanction éventuelle contre Orban sur la question de l'état de droit, qui a été rappelé, ou une opposition frontale à l'idée qu'il faut contrôler les flux migratoires? Là, c'est plus fragile, le deuxième terrain, parce qu'il n'y a aucun pays en Europe où les gens soient pour l'immigration de masse. Ça n'existe pas. Quels que soient les chiffres de l'année, les gens raisonnent
bon,
sur...
Bon, mais là,
les...
clairement, ça n'était pas le sujet cette semaine.
C'est le sujet mis en avant par Orban. Alors,
il a été mis en minorité de façon flagrante.
Oui, mais tu as raison sur le... Il met ça en avant alors que le vote a eu lieu sur l'état de droit, en fait. Donc, qu'elle m'interroge sur les conséquences. Les conséquences dans les peuples européens, je ne sais pas. Parce que les peuples européens ne sont pas pour l'immigration de masse. Ils sont en majorité pour le maintien de l'asile. Il y a certains pays qui sont quasiment prêts à jeter l'asile par-dessus bord. Par exemple, la Hongrie. Il faudrait être inflexible sur ce point. Mais si le clivage, c'est... les partisans de l'immigration de masse d'un côté et les autres. Le résultat est pas évident.
Oui, hein. Est-ce que ce n'a pas voulu faire Emmanuel Macron cette semaine, ou ceux qui ont déclenché cet article 7 ?
C'est sur l'état de droit.
Oui. Est-ce que c'est ça auquel on a assisté cette semaine ? Qu'est-ce que ça aura comme conséquence pour la suite ou le début de cette campagne des Européennes ?
Les conséquences, ça dépend comment c'est interprété. Oui. Si l'Europe, dans son ensemble, arrive finalement quand même à la fois à préserver le droit d'asile vrai, pour les gens en danger vrai, et d'autre part à avancer de façon très concrète, très visible dans la co-gestion des flux migratoires économiques avec les pays de départ et de transit, progressivement, ça crée une situation tout à fait différente où ceux qui veulent exploiter cette confusion, que ce soit les ONG ou l'extrême droite ou l'extrême gauche, auront moins de terrain par rapport à ça. Donc je ne sais pas encore quel sera l'impact.
Thierry Pêche, en fait, on a quand même le sentiment que ce qui s'est joué aussi cette semaine, c'était d'obliger chacun à rappeler son attachement ou non à des valeurs fondamentales, ce que j'ai appelé l'état de droit ou à la démocratie. Ça renvoie peut-être évidemment, bien
c'est
sûr, à ce qu'est l'essai politique,
droit, oui.
À l'état de droit, c'est à ce qu'est l'essai politique de la rentrée. Hein, d'ailleurs, déjà best-seller à travers le monde, Le peuple contre la démocratie, hein, de ce jeune essayiste allemand Yascha Mounk, qui montre qu'un jeune sur quatre aujourd'hui considère que la démocratie constitue peut-être une mauvaise manière de gérer un pays. C'est le cas de cette jeunesse américaine. On est en plein dans notre sujet.
Oui, mais on mélange tous les termes là. Le problème n'est pas la démocratie, c'est les libertés. Orban est très clair sur un point. Il se veut, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et dire tous les populistes européens aujourd'hui se revendiquent démocrates, mais démocrates illibéraux. C'est ça le point, si vous voulez. Donc c'est pas la démocratie qui est contestée par les populistes.
Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie libérale ? Est-ce que vous savez la définir,
attendez.
Thierry Pêche ?
Ils disent quoi ? Ils disent on n'est plus démocrate que vous. C'est ça l'arme mortelle des populistes. C'est de nous dire, nous sommmes les vrais démocrates, vous êtes des oligarques. Vous avez confisqué les institutions, vous n'écoutez pas le peuple, comme disait Philippe, etc. Donc, il ne faut pas simplement répondre. Moi, j'ai souvent répondu sur le terrain des libertés, je crois qu'il n'y a pas de doute sur le fait que je suis attaché à l'état de droit et à tout ça. Et je pense que quand on pose une question sur l'état de droit, on répond sur l'état de droit, et que se présenter en Saint-Sébastien de l'immigration quand on vous questionne sur les libertés, c'est juste du cynisme politique, et on ne devrait pas accepter ça, ni même essayer de le comprendre, il faut le combattre. Mais sur la question démocratique, il faut répondre sur le terrain de la démocratie. Est-ce que cette question nous atteint ou pas ? Moi, je dis oui. On n'a pas été complètement exemplaire. On n'a pas vraiment écouté les gens. On n'a pas des institutions qui laissent assez de place à l'expression des petits. Bon, mais il faut aussi que cette question démocrate rejaillisse sur le comportement des populistes eux-mêmes. Lorsqu'ils sont au pouvoir, est-ce qu'ils font vraiment la politique des petits ? Non. Ils font la politique de leurs copains. C'est ça la vérité. Donc, il faut d'un côté façonner les armes de la critique. Oui, enfin, non, je vois Philippe qui fait la moue.
Oui,
pardon, Philippe, je vais au bout. Quand le premier ministre hongrois met au pouvoir son gendre, son beau-frère, bon, voilà, ça s'appelle comment ?
C'est du népotisme, de la kleptocratie.
On est bien d'accord. Donc, je suis heureux de vous l'entendre dire.
Oui, oui. Et je le disais tout à l'heure moi-même, alors je suis d'accord.
Ben voilà, donc on est d'accord. Donc, je veux dire, il faut façonner les armes de la critique contre le populisme sur le terrain démocratique en montrant que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne font pas la politique en faveur de ceux qui les élisent. C'est important, c'est une contradiction qui va éclater. La Hongrie aujourd'hui est un petit pays dépendant. Je veux dire, dépendant. C'est pour ça qu'ils adorent l'Europe. En fait, ils adorent la PAC, ils adorent les fonds structurels et ils adorent la sécurité et la défense qu'ils espèrent voir venir. Bon, c'est un petit pays dépendant. Bon. Et puis, il faut prendre notre part de la critique. Je crois que c'est très important. Critiquer nos institutions, les rendre plus démocratiques et prouver qu'on est aussi capable d'entendre les gens.
D'ailleurs, et ça, Christine Nocren, vous allez peut-être nous l'expliquer. En effet, cette procédure de l'article 7 est sans doute vouée à l'échec, puisqu'il faut ensuite que le vote soit confirmé en dernier recours par l'unanimité des États membres. Il semblerait que la Commission européenne cherche donc aussi une autre voie, hein, par exemple la suppression de ces fameux fonds structurels européens pour les États récalcitrants, pour tout ce qu'on vient de dire.
Oui, c'est déjà la menace qui a été brandie contre la Pologne. Mais pour poursuivre ce que vient de dire Thierry, et qui, je crois, est absolument fondamental, qui sont les deux meilleurs alliés de Viktor Orban ? Un certain Steve Bannon, on s'en souvient, qui a été cette espèce d'énergumène vraiment de l'extrême droite américaine, qui a beaucoup aidé Donald Trump à gagner la Maison Blanche et qui considère aujourd'hui que Orban est le héros véritablement de la croisade que lui, Bannon, entreprend pour démolir l'Union européenne, qui est vue par lui et par toute une partie de la droite américaine, y compris Donald Trump, comme un ennemi. Et qui est l'autre allié idéologique et même économique de Viktor Orban ? M. Poutine, qui a exactement la même analyse. L'Union européenne est l'ennemi. Donc tout ce qui peut déstabiliser l'Union européenne, tout ce qui peut fomenter au sein des démocraties européennes le maximum de dissensions et le maximum de conflits, c'est bon à prendre. Et je crois qu'il faut bien voir que derrière Orban, il y a cette idée que les élections européennes seront beaucoup plus importantes et beaucoup plus cruciales dans quelques mois, donc dans 9 mois, que toutes les élections européennes précédentes qu'on a toujours considérées à tort ou raison comme étant véritablement quelque chose d'extrêmement ennuyeux sur le plan
Et cet enjeu crucial, vous le résumeriez comment est-ce que justement, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Thierry Pêche, parce que va s'y jouer un affrontement entre ce qu'on appelle maintenant ces fameuses démocraties illibérales et les véritables démocraties, Thierry Pêche?
Bah, c'est la dramaturgie que tout le monde essaye d'installer aujourd'hui, sauf les Allemands. Mais je veux dire, Orban essaye d'installer cette dramaturgie, Macron essaye de l'installer, Salvini s'installe dans cette dramaturgie.
Pas les 5 étoiles. Hein.
Non, pas les 5 étoiles, mais les 5 étoiles sont sur le slippery slope, ils sont sur la pente sabonneuse.
Ils ont voté.
Oui, mais ils ont gagné les élections, mais ils sont en train de perdre l'action politique, le gouvernement. Donc,
ils ont voté contre Orban à Strasbourg, c'est très étrange.
Sur Poutine, c'est pas notre sujet principal, mais j'ai fait une analyse moi, complètement différente, mais je vais pas le développer là, on en parlera une autre fois. Je pense que l'Occident en général, l'Europe en particulier, est dans une impasse complète par rapport à la question russe, et que stratégiquement,
c'est complètement absurde. Vous avez eu l'occasion de le dire à nombreuses reprises dans cette émission.
Non, pas si souvent que ça.
Est-ce que ça fait partie du sujet, là, dans le rapport à la démocratie, peut-être, ou à l'état de droit?
Ça tangente le sujet, mais il y a une autre question sur l'incapacité de l'Europe à avoir une vision stratégique à long terme, notamment sur ce point. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand Thierry Pêche parlait d'écouter, on n'a pas assez écouté les demandes des gens. Je pense, et je le dis depuis longtemps, que je pense que les élites mondialisatrices et intégrationnistes n'ont pas su écouter suffisamment les demandes assez banales des peuples qui veulent garder une certaine identité, une certaine souveraineté, avoir de la sécurité, etc.
Toute la gauche, toute la droite, en particulier au pouvoir dans nos pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Non, pas depuis la fin, non, parce qu'il y a plusieurs étapes
dans la construction européenne. Disons la chute du mur.
La chute du mur, c'est pas la date importante, c'est la fin de l'URSS, la date importante. Depuis 20 ou 30 ans, oui, en effet, je pense qu'il y a une erreur par rapport à ça, et que ça a été traité avec mépris, dédain, on a traité ça comme de l'archaïsme, du fascisme et compagnie. Je pense que les peuples qui n'ont auxquels on peut répondre pour apaiser, canaliser, traiter ce qu'il y a de normal dans les demandes en écartant ce qui n'est pas acceptable, ben finalement les peuples votent de façon extrême. Donc les phénomènes dont nous parlons aujourd'hui, c'est quand même le sous-produit d'un échec. Et là, il y a une interrogation à mener, sur savoir comment on fait. Après, c'est un peu, je dis autrement, une partie de ce qu'a dit Thierry Pêche.
Oui, sauf que j'aurais pas mis autant de questions identitaires dans cette affaire. Mais bon, on en reparlera.
Je pense qu'elle est d'autant plus aiguë qu'elle a été méprisée, traitée de haut, considérée comme monstrueuse, aboutissant à des abominations, alors que c'est une demande archi banale, en fait, par rapport à
mais
ça.
Mais si Viktor Orban en devient, alors, en quelque sorte, l'archange...
Il exploite que... Le populisme, c'est la mesure de l'échec des élites à convaincre les gens que la mondialisation et l'Europe sont bonnes pour eux. Donc il ne faut pas que les élites passent leur temps à dénoncer ça parce qu'ils se tirent des balles dans le pied. Et alors, et après, il y a des Orban et compagnie qui exploitent ce résultat. Il y a tout un travail à faire et je pense qu'il n'est pas trop tard en fait.
Mais c'est un travail sur le terrain de la démocratie, c'est ça que je voulais dire.
Oui.
Qui est démocrate, qu'est-ce que ça veut dire être démocrate?
C'est la question à laquelle je voulais en venir.
C'est la question du peuple. Les seuls endroits où il n'y a pas de populisme, c'est là où il n'y a pas de peuple. D'accord, c'est Monaco par exemple, vous voyez. Donc il y a un problème d'écoute.
Non mais pour parler très clair, peut-être recentrer un petit peu le débat. Est-ce qu'en effet, ce qui s'est joué cette semaine, ainsi que ce qui se jouera dans les prochaines semaines...
Mais l'importance de ce qui s'est joué là, c'est un...
En tout cas, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans ce studio de Radio France, Philippe Manière.
Ce que je vois important, et ça a été évoqué par plusieurs d'entre nous jusqu'à maintenant, c'est que pendant longtemps, il y avait des tas de choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne pouvait pas plaider, qu'on ne pouvait pas faire, parce qu'il y avait un argument très puissant qu'on opposait immédiatement, qui était les valeurs démocratiques. Eh bien, aujourd'hui, cet argument qui paraissait extrêmement puissant, incontournable, il n'est plus aussi efficace sur des parties importantes de nombreuses opinions en Europe, et je dirais même sur une grande partie de l'opinion européenne, pour autant qu'elle existe. Et ça, c'est un vrai changement. On évoquait tout à l'heure le livre qui a été publié récemment sur le sujet. Moi, je suis très frappé quand on parle avec des jeunes gens, pas seulement en Turquie et en Russie, mais dans nos pays, de voir le nombre de jeunes gens qui sont, en quelque sorte, assez tentés de penser que c'est l'efficacité qui compte, que la démocratie, ils l'ont sur les réseaux sociaux et la liberté d'aller et de venir qui est en fait garantie.
Ce que raconte Yacha, un jeune sur quatre aux États-Unis.
Et dans le fond, il n'y a pas cet attachement un peu viscéral dans lequel nous, on avait été entretenus, je veux dire, les générations précédentes, et qui bloquait la parole sur certains sujets, et pour le meilleur à bien des égards. Il n'y a plus cette protection-là. Et alors, à partir du moment où vous combinez ça avec la tentation identitaire nourrie par une immigration objectivement peu contrôlée, vous vous trouvez dans une espèce de perfect storm, comme on dit. C'est-à-dire, tout devient possible dans l'expression politique, dans les postures des partis. Et c'est pour ça qu'on voit des choses qui nous surprennent, nous qui avons été élevés dans l'idée que tout de même il y avait cette barrière des mauvais. On voit apparaître dans plein de pays, certains où c'était un peu prévisible, d'autres moins. Sincèrement, moi, j'ai été assez surpris par l'aventure italienne. On m'aurait dit il y a seulement 10 ans qu'une partie très substantielle des Italiens allait se rallier à des partis d'extrême gauche et droite qui allaient prendre le pouvoir, j'aurais éclaté de rire. Peut-être étiez-vous plus prescient que moi, mais moi j'étais incapable d'imaginer
c'était
ça.
C'est évident que ça arriverait un jour ou l'autre.
Eh ben, pardon, Hubert, moi
pas depuis 10 ans.
Il y a 10 ou 15 ans, on avait l'impression que l'Italie était tout de même un pays fondateur de l'Union, qui avait connu une période sombre et qui était foncièrement attaché à la démocratie. On n'est plus dans le même univers. Et à côté de ça, vous avez ce sujet. Alors, on n'est plus dans la religion démocratique, mais qui crée une barrière. Et à côté de ça, vous avez ce problème opérationnel, sur lequel je voulais juste dire un mot, et qui, franchement, devient, enfin, l'incapacité dans laquelle on est de l'affronter, je ne dis pas de le régler parce qu'il est difficile, mais de l'affronter devient risible parce que ça fait le lit de tous les partis antidémocratiques assumés. C'est cette question de la distinction très claire entre le droit d'asile qui ressortit. Alors j'allais dire à des droits essentiels dans la vision démocratique et à l'immigration économique qui n'a strictement rien à voir, mais on ne peut pas faire le tri, on n'ose pas le faire, on ne sait pas
le faire. Non, c'est très difficile.
Mais bien sûr c'est très difficile.
Il y a des forces énormes qui veulent pas distinguer. Mais Macron,
allez conclure sur cette première partie.
Oui, il l'a distingué, mais le problème c'est qu'on distingue pas, on peut pas distinguer opérationnellement à la frontière. On est obligé de demander aux gens. Non, parce que les gens rentrent dans le pays. Christine, vous savez comment ça marche. Les gens rentrent dans le pays, demandent l'asile et s'ils n'y sont pas éligibles, au bon moment, ils sont expulsables, mais ils ont disparu dans la nature. Je ne porte pas de critique, parce que je pense qu'on peut tout à fait comprendre les gens qui se comportent de cette manière. Mais du point de vue de la population locale, c'est évidemment se moquer d'eux que de leur dire qu'on fait très attention et qu'on ne garde que les gens qui ont droit à l'asile. Parce que c'est pas vrai qu'on fait ça.
C'est un objectif.
Allez, conclusion sur cette, mais ça n'est pas le résultat. Conclusion sur cette première partie, Christine O'Kent, et très rapidement Thierry Pêche, sur ce que Philippe Manière appelait la religion démocratique.
Il n'y a plus de religion démocratique. On n'a pas le temps de tirer tous les fils de la discussion, et bon, c'était pas l'objet. Mais je veux juste insister sur un point. Le populisme n'est pas un antidémocratisme. C'est une maladie de la démocratie. Tous les leaders dont on parle sont élus, le revendiquent. Simplement, ils ont réduit la démocratie. Démocratie à l'exercice électoral. Et ils ne veulent rien d'autre. Ils veulent pas. Bah, pour moi, une grande scène démocratique, c'est par exemple une commission d'enquête parlementaire aux États-Unis. Voilà, où on peut interroger, y compris les plus puissants d'entre nous, de façon frontale et exiger d'eux des réponses qui les engagent. Bon. Ben, je ne crois pas que ce soit une grande scène démocratique aux yeux de quelqu'un comme Orban. C'est ça le point. C'est-à-dire, jusqu'où va la démocratie, c'est quoi? C'est pas pour ou contre, c'est quelle démocratie on veut.
Il faut trouver des vraies réponses.
Ah ben je pense, oui.
Le mot de la fin, Christian, sur cette première partie.
Je crois que le vrai danger, c'est de voir Viktor Orban réussir à incarner une nouvelle droite européenne, basée, selon lui, sur les valeurs chrétiennes anti-islam. Et expliquer que Madame Merkel, au contraire, incarne ce libéralisme pro-immigration qui mène l'Europe à sa perte. Donc il ne faut pas se tromper non plus sur le danger que représente Orban au sein même de l'Union européenne, parce que là, c'est une manœuvre par l'intérieur où véritablement il réussit, et paradoxalement ce vote de Strasbourg le consacre encore davantage, il réussit à devenir le champion de cette cause-là.
Merci beaucoup Christine. D'un parlement à l'autre, on va maintenant quitter l'arène bruxelloise pour une arène plus hexagonale, celle de l'Assemblée nationale, du Palais Bourbon, avec le petit jeu de chaises musicales de cette rentrée. La démission du ministre Hulot, remplacée par le président de l'Assemblée François de Rugy, remplacée par l'ultra-macronien Richard Ferrand, le choix du roi et surtout des questions sur la pratique du pouvoir.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
À l'évidence, il avait été difficile cette semaine de se passionner pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, puisque sans surprise, c'était bien l'ami de la première heure du président Richard Ferrand qui accédait au perchoir. Et tant pis pour la députée En Marche Barbara Pompili, également candidate, qui avait tenté de convaincre que dans le nouveau monde qui disait favoriser le renouvellement des individus et des pratiques, elle pouvait prétendre devenir la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand, par ailleurs mal élu par les députés En Marche, 254 voix seulement quand le groupe des marcheurs comptait 312 députés. Ce qui semblait indiquer qu'au fil du temps, pour certains, le groupe de députés dit godillot aux ordres de l'Élysée commençait peut-être à s'affranchir. D'aucuns, d'ailleurs, avaient cru voir avant les vacances comme le début d'un réveil des oppositions et du débat démocratique au sein de l'institution parlementaire, grâce à l'affaire Benalla. Ainsi, le Sénat se flattait aujourd'hui de jouer mieux que l'Assemblée nationale son rôle de contre-pouvoir en auditionnant l'ancien garde du corps dans le cadre d'une commission d'enquête. Il n'en demeurait pas moins qu'on constatait en cette rentrée que le jeune président Macron se sentait définitivement très à l'aise dans les usages gaulliens de la Ve République, nommant, verrouillant, centralisant son pouvoir. Alors on se posait la question. Chambre basse et chambre haute seraient-elles davantage dans les mois à venir des lieux de débat, de contrôle de l'action de l'exécutif? Quel serait en cette saison 2 du macronisme le Parlement face à l'hyper-président? Et au-delà, était-ce bien cette pratique du pouvoir qu'attendaient les Français?
Je n'accueille pas cette élection avec une très grande joie. Je vous dis pas que c'est mon choix, je vous dis pas que je m'éclate parce qu'on n'a pas su effectivement se renouveler, on n'a pas su casser ses codes, on n'a pas su renverser la table comme Emmanuel Macron l'a fait.
Et vous venez d'entendre Sonia Crimi, députée de La République En Marche. Thierry Pech, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, c'est un non-événement ou ça nous dit quelque chose, ça nous renseigne sur ce que sera la saison 2 du macronisme?
Oh non, je pense que la saison 2 du macronisme, elle se décide à l'Élysée, elle se décide pas au Parlement. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, très bien, dont acte. Il y a une espèce de logique des hiérarchies de groupe. C'est pas un non-événement, mais c'est pas un événement non plus, quoi. Bon, non, je crois que ce qui ressort de tout ça depuis un an et depuis 10 ans, c'est l'affaissement du rôle du Parlement. C'est ça qu'il faut regarder précisément, si vous voulez. D'abord parce que le Parlement, dans les conditions même de sa naissance, est de moins en moins une institution indépendante. Le Parlement est élu non seulement au scrutin majoritaire, ce qui déjà dégage tous les petits partis qui font pas d'alliance. Bon, c'était l'obsession de la Ve République, et là pour le coup on est dans son ADN, c'est-à-dire trouver une chambre basse à l'intérieur de laquelle on ait les conditions de stabilité du gouvernement. Donc une obsession de gouvernabilité, c'est ça qui... Bon. Mais c'est ajouté à ça, qui a déjà bien nettoyé la diversité et la représentation nationale, l'alignement des mandats législatifs et exécutifs, et en plus, la post-position des législatives sur le calendrier électoral. Donc en gros, l'élection législative est un exercice électoral de consécration de l'exécutif aujourd'hui. C'est la deuxième élection du président de la République. Le président de la République est élu 2 fois. Et toutes nos institutions fonctionnent sur une espèce de strabisme convergent sur l'exécutif. C'est ça l'institution qui compte, c'est ça qu'il faut consacrer, c'est ça qui doit fonctionner. Donc le Parlement, aujourd'hui, il est un bystander de l'action politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, la Constitution ne dit pas qu'il fait la loi, il la vote. Il la vote. Et de fait, la loi est aujourd'hui faite dans les administrations. Elle est écrite, les textes sont écrits dans les administrations centrales. Voilà ce qui se passe. Alors on dit... Ah ben il faut donner des pouvoirs de contrôle au Parlement, c'est ça qui va changer la vie de nos démocraties, on aura là un vrai contre-pouvoir. Sauf que, les parlementaires n'ont absolument pas l'expertise qui va avec ces pouvoirs de contrôle.
Ils n'ont pas de quoi financer des expertises indépendantes.
Voilà. Et deux, ils ne sont pas indépendants. C'est ça le problème, si vous voulez, pour avoir... moi, je me souviens, Carcassonne disait toujours, bon oui, on peut leur donner des fonctions supplémentaires, mais ils en ont déjà, ils les utilisent pas. Pourquoi ils les utilisent pas? Ils les utilisent pas parce qu'ils sont nés dans le sillage d'un vainqueur qui est l'autre pouvoir à côté. Vous n'allez pas utiliser les pouvoirs de contrôle contre vos amis. Voilà. Donc pour ça, il faut être indépendant. Ils ne le sont pas. Bon. Donc je ne sais pas ce qui va rester de l'institution parlementaire, mais elle est aujourd'hui à genoux. Le problème que ça pose, il est double. D'abord, on a quand même nos démocraties sont fondées quand même sur la représentation parlementaire. Mais ensuite, ça pose un autre problème, c'est que l'apothéose de l'exécutif le fragilise énormément. Ce qu'on constate, c'est que depuis De Gaulle, aucun président de la République n'a été réélu, sauf en contexte de cohabitation. Voilà. Donc, en réalité, cette espèce de, cet imperium de l'exécutif, du suffrage universel, de l'élection suffrage universel du président de la République, fragilise aussi l'institution de la présidence. Et les Français revivent à peu près la même saison, de la même série depuis des années. On cherche Superman, on vote pour lui, et puis au bout de 2 ans, on le déteste, on le jette, parce que tout. Les pouvoirs sont concentrés sur lui, et donc c'est à lui qu'on fait tous les reproches. Ça n'est pas une bonne économie politique.
Ce que vous appelez cet imperium, c'est finalement ce que vous avez très bien connu aussi sous François Mitterrand. Hubert Védrine, finalement, dans cette pratique du pouvoir, rien n'a changé de François Mitterrand à Emmanuel Macron.
Moi, je pense que la constitution de 58-62, remaniée souvent depuis, est la meilleure qu'on ait jamais eue dans l'histoire des 5 républiques. Donc je suis très ouvert à tout ce qui est régénération du fonctionnement interne de la démocratie à travers ce qu'a dit Thierry pour contrebalancer une sorte d'assèchement, d'épuisement, d'anémie de la fonction parlementaire. Il citait tout à l'heure à propos des États-Unis la seule chose qui marche encore un peu dans leur système qui débloque, c'est-à-dire les commissions d'enquête. Bon, ça c'est très important. Je suis favorable à tout ça. Mais j'ai jamais été favorable à la 6e République telle qu'elle était proposée depuis des années parce que sans écarter a priori, quand on regarde, ça revient à la 4e, quoi. En gros, en fait. Si ce n'est la 3e. Donc, moi,
dans la version Mélenchon, c'est vraiment la 4e.
Donc, je pense qu'il faut travailler dans ce cadre, que ça a apporté à ce pays une stabilité extrêmement précieuse, après, qui ont été incarnés par les différents présidents. La question se posait pour Mitterrand, parce que compte tenu des positions de la gauche avant, voire même de Mitterrand longtemps avant, on se dit, mais quand ils vont arriver, ils vont tout bazarder. Bon.
Ou renverser la table, comme disait cette jeune députée de la République En Marche.
A complètement assumé le mécanisme, et ça continue après. Mais globalement, c'est un atout pour la France, cette constitution. Mais je dis, encore une fois, je ne dis pas ça contre toutes les propositions, donnant au Parlement un vrai rôle. Ça serait même très bien. Alors, est-ce qu'il faut corriger l'histoire du calendrier, qui a peut-être été un coup tout à fait négatif pour des raisons conjoncturelles de l'époque, avec des rencontres opportunistes entre différentes tactiques, peut-être, précisément. Mais moi, je pense qu'il faut rester dans ce cadre.
Alors même que dans notre première partie d'émission, vous évoquiez un déficit démocratique. Ça tombe bien, c'est à lui que je donne la parole. Est-ce que finalement, ce n'est pas le même sujet, Philippe Manière?
C'est peut-être pas vrai, en plus.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que la 5e est une excellente constitution. La constitution de la 5e République est très bonne, mais elle a quand même beaucoup évolué au fil des deux épisodes qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire 62, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui n'était pas prévue originellement. Commencé par la Constitution et qui change quand même beaucoup les choses. Ça donne une légitimité sui generis au président, donc ça enlève évidemment une part de légitimité et d'impérium, puisque c'est de ça qu'on parle au Parlement. Et puis le quinquennat et l'alignement des échéances. Enfin, on voit bien, là encore, je reviens, pardon, sur la question américaine, de deux démocraties qui sont nées à peu près au même moment avec des institutions si différentes. C'est intéressant de les éclairer l'une par rapport à l'autre. On arrive là dans quelques mois aux élections de mi-terme aux États-Unis. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, il y a une espèce d'incertitude, et c'est au Parlement que ça se jouera. Alors, il se trouve que par ailleurs, la Constitution des États-Unis, contrairement à ce qu'on raconte, donne assez peu de pouvoir au président des États-Unis, mais on est en tout cas dans un système où clairement il y a un équilibre des pouvoirs, sans même parler évidemment de l'importance immense de la Cour suprême et plus généralement de la branche judiciaire. Nous, on est en France dans une république qui est effectivement efficace du point de vue du fonctionnement des pouvoirs, mais pas très libérale du point de vue de l'équilibre des pouvoirs et du point de vue de la capacité à régénérer, à penser autrement, à peser sur les équilibres tranchés par la haute administration qui dépend de l'exécutif. Donc tout ça est vrai. Il y a eu quelques avancées malgré donc 62, qui à mon avis est un recul à ce titre, même si c'était dans le fond plaidable, parce que c'est un peu l'esprit malgré tout de 58. Mais 62 est un recul évidemment du Parlement. Et le quinquennat, c'est un désastre. Le quinquennat et l'alignement des calendriers, c'est-à-dire qu'il reste évidemment, comme les étiries, juste plus rien du tout de la légitimité du Parlement. Alors il ne faut pas oublier quand même que Nicolas Sarkozy, pour lequel j'ai pas beaucoup de... Enfin, dont je ne retrouve pas le bilan inoubliable, pour être très honnête, a quand même fait 2 ou 3 choses intéressantes pour le Parlement. En 2008, il a donné au Parlement un certain nombre de pouvoirs qu'on aurait aimé qu'il eût dès le début de la 5e et qui lui manquaient. Il a retrouvé une partie de la maîtrise de l'ordre du jour, etc. On va pas faire la liste ici. C'est une amélioration.
Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron voit les choses de cette manière.
Alors là, on va quand même préciser pour ceux qui nous écoutent qu'il y a un projet de réforme institutionnelle avec 30% de députés en moins, avec l'idée de limiter le nombre d'amendements officiellement pour rendre plus efficaces les débats parlementaires.
Il y a des choses qui semblent bonnes, c'est-à-dire moins de députés qui auraient plus de moyens. Ce serait formidable. Mais on voit bien qu'il y aura moins de députés, je ne suis pas sûr qu'ils auraient plus de moyens. Et si c'est moins de députés qui ont moins de moyens, il y aura à la fois une perte en termes de légitimité des élus parce qu'ils auront des ressorts plus vastes ou moins connectés au territoire et pas beaucoup de progrès du point de vue de l'efficacité. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le principal déséquilibre, il tient à l'expertise. Je prends un exemple qui est caricatural. Le budget de l'éducation nationale est énorme, considérable. Vous avez deux ou trois parlementaires dans chacune des deux chambres qui le connaissent, qui le suivent à peu près, avec un ou deux experts qui sont partagé entre plusieurs parlementaires, et en face vous avez la rue de Grenelle avec 100 ou 200 personnes qui travaillent là-dessus toute l'année à jet continu. Le déséquilibre est massif. J'ajoute qu'évidemment on leur présente le projet de budget l'avant-veille du vote, hein, je caricature à peine. Et donc le Parlement n'est absolument pas en état de faire son boulot de contrôle de l'exécutif.
Ce que dit Philippe est très vrai, et là ils viennent frapper à la porte de Think Tank pour nous... Enfin, tu as vécu ça.
En gros,
vous avez deux nuits pour vous prononcer sur le PLFSS.
C'est terrifiant. Donc, on est dans une parodie de démocratie à ce titre.
C'est des salaires, essentiellement.
Christine Ockrent.
Non, mais cette discussion est extraordinaire parce qu'on semble oublier l'ambiguïté fondatrice de la Ve République. Ce n'est pas un régime parlementaire. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, on fait semblant de le penser de temps en temps parce que on se dit ah ben c'est quand même mieux pour l'équilibre des pouvoirs, mais on est quand même d'abord dans un système présidentiel. Oui. Et il est un fait que le président... Non, mais je parle d'aujourd'hui, mon cher Hubert, je n'ai pas ton ancienneté.
Avec des candidats, je rajoute cet élément-là, avec des candidats à l'élection présidentielle, et on pense bien sûr à Emmanuel Macron, qui pendant leur campagne promettent une autre pratique du pouvoir, certes dans ces institutions-là, mais une autre pratique du pouvoir.
Oui, mais enfin, ça c'est évidemment la logorée de la campagne présidentielle de tous les candidats, quels qu'ils soient. Mais ce qui est très intéressant de vérifier, Philippe, à juste titre, faisait la comparaison avec les institutions américaines. Le président français a relativement plus de pouvoir que le président américain.
Beaucoup plus.
Et infiniment plus de pouvoir que le chancelier ou la chancelière d'Allemagne,
certes,
qui ne peut pas faire la moindre proposition sur le plan européen sans avoir l'aval de son Parlement. Mais nous, on fait semblant de penser que oui, nous avons un système très équilibré, parce qu'on est quand même beaucoup plus intelligent que tout le monde, et donc on a inventé un truc où le président incarne la République, il a tous les pouvoirs que l'on sait, mais il y a le Parlement dont il s'agit, à juste titre.
C'est la correction de la troisième et de la quatrième.
Non, mais j'ai bien compris cela, Hubert, ça ne va pas échapper. Mais nous sommes en 2018.
Bien sûr.
Et il y avait, avant, il y avait un projet...
depuis le début.
Avec
aux
États-Unis,
ils ont
amendements.
La même constitution. Ils n'ont pas tellement changé, sauf que maintenant ça marche.
Mais ça ne m'a pas échappé non plus. Mais nous parlons de la
parce
France
qu'il y a plus
et
de
nous sommes en 2018. Et Émilie, à juste titre, faisait allusion au projet de révision constitutionnelle qui semble remis aux calendes dites grecques, mais qui envisageait donc une baisse du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose de proportionnelle, ce qui corrigerait ce que signalait Thierry, c'est-à-dire quand même ce phénomène asphyxiant de la majorité, mais on ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir une majorité parlementaire très forte qui, du coup, élit à la tête du Parlement Richard Ferrand. Ouais. Tout ça est quand même extrêmement logique.
Il n'empêche qu'il y a, Thierry Pêche, cette musique qui monte au long du quinquennat de syndicats malmenés, d'un Parlement sous surveillance, de médias mis à distance dans la haute administration de nomination qui serait encore plus qu'auparavant décidée à l'Élysée. Cette musique-là, elle est gênante pour la suite de ce quinquennat Macron ?
Il y a beaucoup de choses différentes et je n'ai pas le niveau d'information pour me prononcer sur certains points. Je pense que ce gouvernement, comme les précédents, est embarrassé par son Parlement. Voilà. Il voudrait que ça aille vite, que ce soit efficace, quoi. Signé en bas à droite, messieurs, dames. Voilà, signé en bas à droite. Pourquoi c'est si long? Pourquoi le Parlement parlemente? Mais d'où vient cette absurdité? Bon, alors qu'il devrait exécuter, comme l'exécutif le demande. Bon, je veux dire, je vais arrêter les jeux de mots, mais c'est quand même ça l'ambiance mentale de cette majorité. C'était l'ambiance mentale de la précédente aussi. Il faut bien voir que les deux points qui sont que vous avez cités dans la dite réforme des institutions qui probablement ne verra jamais le jour vu les difficultés de calendrier, la proportionnelle et la plus grande efficacité du travail parlementaire. Hollande avait déjà ces deux projets. Dans les 60 engagements de Hollande, vous avez la proportionnelle, et il a quitté le pouvoir en disant « Ah, je regrette, j'aurais bien fait, il aurait fallu faire une réforme du travail parlementaire pour... »
Une dose de proportionnelle.
Oui, pour que ça aille plus vite. Que fait le suivant ? Il prépare un texte qui dit « Voilà, on va faire ces deux trucs-là ». Il est très hollandais, finalement. Mais la vérité, c'est que...
Comme sur tous les autres terrains ou presque.
La vérité, c'est la pente de notre histoire politique, dans les deux cas. Bon, finalement, la proportionnelle, comme dit Hubert, on se cantonne à une dose absolument homéopathique, parce qu'en plus, comme les sièges à la proportionnelle seront distribués à tout le monde, y compris aux vainqueurs du scrutin majoritaire, il en restera peu pour les petits. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La pente de notre histoire politique, c'est la secondarisation du Parlement. C'est qu'il parlemente le moins possible et qu'il signe en bas à droite.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On laisse à quelques moments, un petit moment quand même, pour vos conseils de lecture de la semaine. Commençons par vous, Hubert Védrine.
Bien, je viens de lire le dernier petit essai de Régis Debray, qui en écrit énormément, donc je dis que c'est le tout dernier. Et c'est présenté comme portant sur la mort, donc on n'a pas envie de le lire. Mais en fait, Régis Debray étudie pour la première fois, me semble-t-il, la question du terrorisme islamique et des raisons pour lesquelles des gens sont prêts à se faire tuer. Alors pendant très longtemps, il n'a pas voulu étudier ce problème parce qu'il considérait que le seul sujet, c'était l'hégémonie culturelle américaine, bon, depuis plusieurs décennies, qu'il ne fallait pas détourner notre attention de ce point. Et là-dessus, il essaie de creuser cette question. Et c'est un petit essai très remarquable.
Le dernier ouvrage de Régis Debray, Philippe Manière.
Non, je lisais très tardivement, puisque je crois que c'est sorti il y a plusieurs mois maintenant, le bouquin de Pierre Manant, qui s'appelle, je crois, Sur la France, ou De la France.
De la France.
Et qui est très intéressant sur beaucoup des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, en particulier sur la démocratie, l'immigration, les questions identitaires.
Christine Ancrente.
Sylvain Tesson avec Homer. Très joli livre. Plein de sagesse.
Pour oublier tout ce qu'on aura dit aujourd'hui, Thierry
Pêche. Sans hésitation, le livre de Pierre Rosanballon, Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018. Je pourrais en parler longuement. C'est une histoire lucide, acide parfois, mais très précise.
De ses engagements avec l'histoire de la gauche, et une partie de 1968 à nos jours.
Une histoire qui est un peu la mienne aussi.
Et puis Le peuple contre la démocratie de Yascha Mounk aux éditions de l'Observatoire, dont nous parlions tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les quatre, Philippe Manière, Hubert Védrine, Thierry Pêche et Christine Ancrente. Merci à Charles Thibault qui a préparé avec moi cette émission, à Anne de Pelchin qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Xavier Lévesque. N'oubliez pas que dans 15 jours, je vous donne rendez-vous au Théâtre de l'Odéon à Paris, enregistrement de l'Esprit public en public samedi 29 septembre à 14h dans ce théâtre qu'on appelle aussi le Théâtre de l'Europe, pour diffusion bien sûr comme toujours le lendemain dimanche à 11h. On se délocalisera régulièrement cette saison pour aller à votre rencontre et vous permettre de participer à nos échanges sur l'actualité politique et géopolitique. Alors inscrivez-vous dès à présent sur les sites de Radio France et du Théâtre de l'Odéon. Tout de suite, c'est l'heure bien sûr d'aller retrouver Les bonnes choses de Caroline Bouet, chez qui je sens déjà l'odeur de la bonne viande rôtie, celle-là même à laquelle il faut peut-être savoir renoncer. À tout de suite, Caroline. Bon dimanche à tous. À la semaine prochaine.